J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous et aussi avoir accepté de participer à ce débat et échange de citoyens sur la fréquence de la paix. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté le mercredi dernier à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2017 évalué à plus de 11 000 milliards de francs congolais, soit près de 8 milliards de dollars américains. Ce projet de loi a été jugé irrécevable par les députés. Les chefs de l'exécutif a fait remarquer que ce projet trouvera des ressources grâce à la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière, ainsi qu'aux sanctions sévères contre les corrompus. Alors comment commentez-vous ces préalables fixés par le Premier ministre ? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou encore au 099 706 63 80. Nico Kalambay est au standard de cette émission. Pierrot et la Mégie à la réalisation de ce programme mis en onde par Paul Badianyama. Notez que ce programme est supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pour arriver à atteindre au fait l'objectif assigné quant à la mobilisation de ressources, certains internautes à qui d'ailleurs j'ai dit merci d'avoir participé à cette émission qui a atteint au moins plus de 3000 personnes sur notre page Facebook et plus de 1000 ont commenté ce sujet. Ils ont proposé pour arriver à fait, en fait à atteindre l'objectif, restructurer les régies financières, notamment avec les différents responsables qui ont été placés à la tête de ces régies depuis le gouvernement Matata 2, et aussi créer une police pour arriver à sanctionner et enfin collaborer avec l'instance mise sur pied par le chef de l'État pour la lutte contre la corruption. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Michel Somoué, analyste économique, est notre invité. Bonjour Michel.
Bonjour Gérard.
Alors comment analysez-vous d'ailleurs d'abord les budgets qui a été présentés, les projets du budget, les projets de loi de finances proposés par le gouvernement Bruno Tshibala?
La première chose que je dirais à ce sujet, c'est d'abord de saluer la célérité et le respect de la parole qu'on a noté du côté du Premier ministre Bruno Tshibala, qui devant la représentation nationale avait pris l'engagement de se présenter de nouveau devant eux dans les 10 jours qui suivaient son investiture, muni de son projet de loi des finances. Je crois que cette promesse a été tenue et je pense qu'il faut l'en féliciter dans un pays où nous savons que la préparation du cadre budgétaire prend de longs mois et parfois même, pourquoi ne pas le dire, une année. Qu'il ait fait en 10 jours, je pense qu'il faut le féliciter. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais également féliciter de la part du gouvernement Tshibala, c'est d'avoir osé aller au-delà des prévisions qui lui étaient en quelque sorte imposées par le gouvernement sortant, qui, vous le savez autant que moi, craignant les effets néfastes de la conjoncture internationale et même intérieure, avait arrêté les prévisions budgétaires en dessous de 4,5 milliards de dollars. Que Bruno Tshibala ait osé proposer le double de ses prévisions, je pense que là aussi, c'est un pas qu'il faut de nouveau féliciter. Il l'a dit, parce que j'étais moi-même présent dans la salle quand il présentait les prévisions budgétaires, il a dit qu'il était bien capable, si ses prévisions étaient faites sur une année, de proposer plus que le double de ce qui était dit. Et Je crois qu'il pouvait, j'ai toujours dit, le monde entier qui me suit le sait, J'ai toujours dit que les dotations et la vocation naturelle de la RD Congo nous disposent à avoir un budget qui devrait se chiffrer en termes de centaines de milliards de dollars par an. Vous, le monde entier, je le prends à témoin, m'a toujours entendu traiter de chétif le budget qui nous sont régulièrement présentés dans ce pays. Mmh. Et qui, du reste, n'ont jamais été réalisés au-delà de 65% de leurs prévisions initiales. Donc, pour l'instant, ma lecture de ce nouvelle prévision budgétaire, compte tenu du temps qui lui est donné, et compte tenu aussi du fait que un gouvernement d'union nationale est toujours par nature un gouvernement faible, je peux donc comprendre que les prévisions faites par M. Bruno Tshibala soient, à mon humble avis, suffisamment prudentes et même modestes, donc réalistes. Je l'encourage à le faire et je crois qu'il est capable d'aller au-delà de ces prévisions-là.
Alors, il a parlé du préalable. Lutte contre la fraude, lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et douanière, ainsi qu'aux sanctions sévères contre les corrompus. Et là, les internautes sont allés plus loin, à proposer d'ailleurs un schéma pouvant amener au succès, notamment la création d'une police pouvant réellement sanctionner, qui sera attachée à la primature. Et d'autre part, la restructuration des régies financières. Entendez par là, en tout cas en lisant les commentaires des uns et des autres, que les responsables placés à la tête de ces différentes régies par le gouvernement Matata II, que cela puisse être changé le plus tôt possible. Et enfin, collaborer avec les conseillers en charge, les conseillers à la présidence, chargés sur la question donc de la lutte contre la corruption. Comment entrevoyez-vous ça?
Fantastique. Fantastique de constater que les citoyens congolais sont aujourd'hui très préoccupé et même très consciencieux de la nécessité pour ce pays de disposer non seulement d'un cadre budgétaire raisonnable, mais surtout de comportements citoyens dans ce pays et qui nous oblige tous à polariser nos forces, ou plutôt à mettre ensemble, à converger tous vers le même idéal d'un Congo plus grand, d'un Congo plus beau et d'un Congo qui réponde effectivement à sa vocation d'être la nation mondiale par excellence. Ces propositions, d'abord celles qui ont été faites par le Premier ministre dans la salle, notamment la lutte contre la corruption, nous le savons, GL, tout le monde le sait aussi dans ce pays, qu'il y a autant de rapports qui ont été publié venant du Parlement. Vous savez, vous vous souviendrez des rapports Mayobo, des rapports Bakandeja, des rapports Mutamba Dibwe et de tant d'autres.
La commission de Tondola.
Et tous ces rapports ont généralement démontré que ce pays est capable de faire beaucoup d'argent et pour l'intérêt du plus grand nombre. Mais on n'y arrive toujours pas. Il vous souviendra que le gouvernement Matata avait organisé tout au début de son mandat des journées qu'on avait appelées, je crois,
le collage des recettes,
qui démontrait clairement que si les cadres budgétaires étaient rigoureusement gérés, ce pays pourrait générer autour de 30 milliards de dollars qui étaient en train d'être dilapidés en permanence. 30 milliards de dollars de fuites, de fraudes régulièrement chaque année. Et il vous souviendra également que le même conseiller spécial chef de l'État, M. Luzolo Bambi, avait lui aussi déclaré que, d'après les informations en sa possession, rassemblées par lui, la fraude représentait en moyenne 15 milliards de dollars par an. Donc, si le Premier ministre dit aujourd'hui qu'il faut mettre fin à toutes ces vannes d'évasion, de fraude, de corruption et autres qui gangrènent le système financier congolais, pourquoi ne pas non seulement le croire, mais l'accompagner dans cet effort pour mettre fin justement à ce désordre, à cette gangrène. Je pense que c'est un devoir citoyen que chacun de nous puisse employer à mettre la main à la pâte pour que nous puissions quand même un jour disposer d'un pays et d'une nation et d'un peuple plutôt que d'une population. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand les autres viennent, les nombreux auditeurs de Radio Okapi viennent proposer au Premier ministre notamment de la restructuration des régies financières. Oui, c'est important. Et un député dans la salle l'avait aussi clairement dit. Il a dit, écoutez, vous êtes un nouveau gouvernement. Et quelqu'un a dit même plus important. Il dit, c'est la première fois, c'est un député qui le disait, c'est la première fois que j'ai le plaisir ou l'honneur de saluer l'avènement d'un Premier ministre venant de l'opposition. Et donc, il attend de ce Premier ministre, naturellement, une vision nouvelle, imprégnée, un changement nouveau. Tout le monde le sait, le Premier ministre l'avait dit, qu'il a fait 36 ans de combat. Et je ne crois pas que ce soit 36 ans qu'il faille diluer dans dans la routine, dans l'habituel. Je pense que tous ces atouts constituent pour moi des raisons de croire qu'il est fort possible qu'un changement, effectivement, survienne. Je l'ai dit tout à l'heure, je néglige pas le fait qu'il s'agit pour le moment encore d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement
qui, par définition, qui est très faible.
Et qu'il n'est pas possible dans le gouvernement d'union nationale que le Premier ministre impose à lui seul sa seule vision. Il faut combiner, il faut mettre ensemble les uns et les autres. Mais je pense que ça y est, tous des citoyens congolais.
Merci.
Nous militons tous pour l'intérêt.
Merci beaucoup, Michel Somoy. Nous allons revenir à vous. Le temps d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat et qui ont les soucis de participer à cet échange citoyen. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange et qui continuez d'ailleurs à débattre sur cette page Facebook où se tient d'ailleurs ce débat autour de ce budget qui a été déclaré recevable au niveau du Parlement. 09 97 06 49 69 09 97 06 63 80 pour les appels en direct.
Parole aux auditeurs.
Papi Kachema, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour aussi à l'invité.
Restructuration des régies financières, création d'une police de lutte contre la fraude, la corruption et l'évasion fiscale qui sera attachée à la primature. Et également la collaboration étroite entre les conseillers en charge de lutte contre la corruption et cette police. Est-ce que vous pensez que cela pourrait aider le Premier ministre actuellement d'atteindre ses objectifs avec les préalables qu'il a posés?
Bien sûr que oui, mais il y a aussi des préalables pour en arriver, monsieur JR. Parce que moi, à mon avis, je crois que il faut commencer à résoudre des problèmes en amont. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on veut créer une police spécialisée en répression de la corruption et consorts, monsieur JR, je ne sais pas si cela peut être considéré comme ou faire le travail que la justice doit faire normalement. Parce que la fois passée, il y a cela, je crois, 2 ans, vous aviez une émission dans Parole aux auditeurs qui consistait à la répression de l'infraction de la corruption. Monsieur JR, moi, à mon avis, je crois que créer une police, c'est mieux, mais il faut rendre la justice congolaise indépendante. Pourquoi? Parce que même si la police dénonce, même si la police arrête, mais ce sont les cours et tribunaux qui vont dire les droits et sanctionner de façon exemplaire ce qui détournait au grand jour l'argent de l'État. Alors, la fois passée, moi, j'avais proposé qu'il y ait une chambre spécialisée près les cours d'appel afin de réprimer ces infractions-là. Et nous sommes sidérés, M. J.A., de constater même les représentants personnels du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption dénoncent au grand jour de façon précise ce qui détournait chaque fois l'argent de l'État. Mais cela n'a aucun impact, aucun effet sur le plan pratique. Alors, M. JR, si vous lisez le projet de loi, c'est bon, mais les Congolais se sont fatigués, ils ne veulent plus de discours. Nous encourageons le Premier ministre, mais il faut aussi qu'il soit à mesure de mettre en pratique tout ce qu'il a proposé.
Parce que... Voilà, merci beaucoup papy. Mettre en pratique, vous l'avez dit, la création d'une police de lutte contre la fraude n'est pas opportune en ce moment, parce qu'il y a 2 ans d'ailleurs, nous avons dans cette émission Parole aux auditeurs parlé des mécanismes à mettre en place pour créer, disons, pour renforcer la répression dans la lutte contre la corruption. Et vous estimez que ce travail devait plutôt être fait par la justice. Et si nous tendons réellement vers une justice indépendante, je crois que la solution pourrait arriver. Et vous continuez à plaider pour la création plutôt d'une chambre spécialisée près la cour d'appel afin de trouver cette solution. Les projets proposés par le Premier ministre, vous l'estimez réaliste comme notre invité, modeste bien entendu, mais il va falloir que le Premier ministre mette la main à la pâte pour arriver au résultat. Merci beaucoup papy. Séraphin, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous de Radio Capi ainsi qu'à votre invité.
Restructuration des régies financières, création d'une police et aussi la collaboration avec les conseillers en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider le chef du gouvernement, de l'exécutif national pour arriver au résultat?
Bon, moi personnellement je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que ce sont des redites. J'ai dit pourquoi, parce que vous souviendrez, même à l'époque de Mouzito, même à l'époque de Matata Ampogno 1, Matata Ampogno 2 et les autres gouvernements, tous dénonçaient la même chose et rien n'a marché. Et surtout que tous les précédents ministres étaient membres de la majorité présidentielle. Ceux-là qui n'ont pas pu gérer, qui n'ont pas pu démobiliser les recettes, je ne pense pas si aujourd'hui quelqu'un de l'opposition on peut le laisser une tâche facile. Je ne crois pas. Plutôt, personnellement, je voudrais, j'ai suivi aussi le débat à l'Assemblée nationale, personnellement, je voudrais peut-être proposer que le Premier ministre puisse innover dans la mobilisation des recettes, parce que le mal est déjà profond avec les actions d'urgence des différentes régies financières, le mal est déjà profond et tout le monde ne cesse point de les dénoncer. Mais néanmoins, il n'y a pas une stratégie que lui peut créer pour qu'il puisse contourner tous ces genres de détournements.
C'est pourquoi les autres ont parlé de la restructuration des régies financières, qui ne passe pas seulement au changement à la tête, mais aussi à créer des stratégies ou des stratagèmes pouvant amener finalement à une lutte efficace.
Oui, tout à fait, c'est pour ça, parce que vous vous souviendrez, monsieur, là où on connaît beaucoup plus d'évasion fiscale, c'est dans le secteur informel. Et ces secteurs informels ne sont pas structurés. Donc moi, je pense que le Premier ministre, étant donné qu'il est de l'opposition, il doit montrer aux gens de la majorité qu'il a une capacité, une valeur intrinsèque à pouvoir créer une innovation dans la maximisation des recettes, dans le recouvrement des recettes de l'État, que ce soit les recettes non fiscales, que ce soit les recettes fiscales. Il doit chercher une manière à innover dans la mobilisation des recettes.
Alors, est-ce que vous pouvez proposer? Vous pouvez proposer quand même au Premier ministre.
Pardon?
Est-ce que vous pouvez proposer cette manière d'innover?
Oui, tout à fait. Prenons par exemple avec l'informatisation actuelle. Pourquoi ne pas informatiser dans les différents services de l'État? Parce qu'aujourd'hui, avec les machines que la CENI utilise, on peut, parce qu'on sait que demain, après-demain, ça va se voler, on va voler ça, on ne retrouvera aucune machine pour qu'aux élections prochaines, qu'on nous achète encore des machines. Alors, avec ce genre d'ordinateur, nous avons des informaticiens. Pourquoi on ne peut pas informatiser dans différentes banques? On puisse informatiser et qu'on crée un guichet unique. Et on engage ou bien on utilise les mêmes personnes, qu'on informatise, que l'argent ne puisse pas passer aux mains de gens et que le système soit informatisé à partir de Kinshasa, qu'il y ait même un contrôle, comme on fait avec la CENI. La CENI, le données qui sont dans les provinces, la CENI reçoit ça ici à Kinshasa. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça dans la maximisation des recettes publiques de l'État? Moi, je crois que nous avons un mal très très profond auquel le ministre doit chercher à contourner avec les différentes stratégies qui pourront permettre à mobiliser un bel recettes que nous puissions aller aux élections, parce que tout le monde aujourd'hui a besoin des changements, tout le monde a besoin des élections. Nous voulons accepter l'aspect qui nous reste, qui nous gagne les élections, qui cherche à
mobiliser les élections. Oui. Merci beaucoup, Séraphin. Pour vous, le mal est très profond. La solution ne passera que par l'informatisation du système fiscal de la RDC. Mais vous vous êtes posé la question de savoir qu'en est-il du guichet unique. C'est comme si vous regrettez que ces guichets ne puissent pas résoudre cet épineux problème. Merci beaucoup, Séraphin, d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Gervais, vous êtes à Calémi. Bonjour et bienvenue. Maître Gervais, vous êtes avec nous? Alors, on prend plutôt Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à notre invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio 4.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Moi, je serai un peu plus direct. Plus direct dans le sens que il y a des histoires qui se passent dans notre nation où il faut plutôt agir que de préparer seulement les stratégies. Mais il y a des histoires sur la table qu'on peut mettre. Je prends un exemple. Et il y a une combine que je n'ai pas cessé de dénoncer. Nous prenons l'exemple du ministère des Affaires foncières. C'est un ministère qui génère des recettes pour le gouvernement central. Je prends un exemple que nous vivons ici, à Kikwit. Nous avons affaire à des très hautes personnalités de la République et de la province. Tous du même parti politique. Je mets un peu à côté, je ne cite pas le parti politique. Voyez un exemple. Un monsieur qui se trouve à Kinshasa, au gouvernement central, qui influence l'obtention d'un certificat perpétuel en moins de 10 jours, s'il vous plaît, sur une parcelle qui appartient à l'État, et l'État a cédé ça à une organisation de masse populaire. La personne joue sa carte, il garde le certificat d'enregistrement et il part par là, une personne interposée. Il achète cette parcelle au moment où la parcelle est conflictuelle devant le cours des tribunaux. On lui donne un certificat perpétuel en moins de 10 jours, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes dans le cours des tribunaux. Je prends ce petit exemple que je réserve les détails.
Oui, rapidement, parce que vous n'avez que deux minutes, Arsène.
Mais j'ai pris cet exemple pour quelle raison? Pour la simple raison que le meneur de la corruption, le meneur de la tricherie et du coulage des recettes ne sont que les autres autorités. Mais si la justice a des éléments probables, tels que les documents que j'ai détenus, que je vais livrer ça au moment opportun au procureur général de la République, si on attaque cette personne-là, on attaque les hauts responsables de la province, ils sont mis en justice et destitués de leurs fonctions. Vous croyez que dans cette province du Kwilu, il y aura encore quelqu'un qui va se lever pour faire ça? Je dis que non.
Voilà.
C'est
alors,
un exemple que
oui,
je donne.
Arsène. Donc, alors, oui. Maintenant, la question sur la restructuration des régies financières pour arriver au résultat ou pour soutenir, en tout cas de près, le préalable proposé par le chef de l'État, pardon, le chef du gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne, c'est l'idéal?
Effectivement, il faut restructurer, parce que ce sont les mêmes personnes qui sont des corrupteurs et des corrompus. Comment, aujourd'hui, on vous donne un poste à gérer, puis vous gérez l'argent de l'État. Et vous êtes la première personne à préparer la commune, comment tricher, comment frauder, comment faire ceci, cela. Et on vous laisse là. Vous avez vu quand Matata Mponyo partait. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste au moment où il partait, il devait retourner parce que la commune allait être ouverte et il allait être pris lui aussi dans le sac. Aujourd'hui, avec la proposition d'un de mes prédécesseurs, si on mettait ces gens-là à côté, je crois que ça va bousculer ces gens qui ont l'habitude de le faire. C'est toute une mafia qu'il faut démanteler petit à petit. Voilà un peu ce que je peux proposer.
Merci beaucoup, Arsène. Il y a eu, au fait, vous appelez ça des combines, qui font qu'aujourd'hui, ça fait rater beaucoup d'argent au pays. Il va falloir que la justice, comme l'a dit un de vos prédécesseurs, fasse son travail afin d'amener, en tout cas, l'action du gouvernement au résultat. Merci beaucoup, Arsène. Maître Gervais, je crois que la ligne s'est améliorée. Vous êtes à Calémi. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Gilles, bonjour à l'invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Alors si nous devons tenir compte de la proposition de certains internautes qui pensent de la restructuration des régies financières, de changer des responsables qui sont à la tête pour arriver finalement au résultat et créer une police qui s'est rattachée directement à la primature et aussi la collaboration directe entre ces deux institutions et le conseiller en charge de lutte contre la corruption. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui. D'entrée de jeu, je ne partage pas du tout ces avis, mais je dirais qu'en donnant les différentes pistes de solutions, parce que je sais, il est difficile de changer l'équipe qui gagne. Il faut toutefois passer à la restructuration, c'est qu'il faut, parce qu'avant de changer des gens, il faut qu'on poursuive un peu les malfrats, donc, les malfaiteurs, donc, les fraudeurs, c'est que la fraude fiscale et les autres aussi, les imbroglios qui se passent, sans la punition, sans sanction, ces gens-là, les régies financières ne seront pas vraiment productives. Il faut vraiment sanctionner ceux-là qui sont fraudeurs, tout en laissant changer brusquement les gens. Parce qu'il est trop difficile de faire un remplacement, parce qu'au début, comme je l'ai suivi, l'un de mes présidents a dit non, il faut passer au remaniement, soit dans la restructuration, soit changer les chefs, ou soit. Avant de procéder à ça, il faut toutefois. Quelqu'un qui était très à l'aise en prenant quelqu'un qui est très dangereux que lui, c'est qu'il est trop difficile. C'est que d'avance, il faut soit inspecter, chercher, mener des enquêtes dans les chefs de ceux-là qui dirigent les différentes régies-là, savoir où est la source du problème.
Oui, parce que maître Gervais, pour atteindre les objectifs assignés à ces gouvernements, notamment l'organisation des élections d'ici au mois de décembre prochain, il faut des ressources financières, il faut, c'est vrai, des recettes. Alors, est-ce que vous pensez que dans la configuration de nos régies financières actuelles, comme l'ont proposé certains des internautes, on peut arriver à mobiliser sensiblement les recettes et aussi atteindre quand même ce que prévoit le budget, notamment le 8 milliards de dollars américains afin de réaliser les projets?
Oui, vous savez que ce budget-là n'est qu'une encore proposition, mais il faut qu'il y ait aussi la volonté de tous les citoyens, pour la mobilisation de ces ressources-là. C'est qu'il faut aller étape par étape, tout peut arriver, on va bien aboutir à la suite, donc à la vraie réalisation. C'est qu'il faut qu'il y ait la participation et la volonté dans les chefs des membres du gouvernement, des membres de ces régies-là, pour que nous aboutissions à un bon résultat.
Merci beaucoup, Maître Gervais. 09 97 06 49 69 ou bien le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous retrouvons à nouveau Michel Sommouet, analyste économique, qui est avec nous dans ces studios. Après avoir suivi les uns les autres, Séraphin, Papy, également Arsène qui nous a appelé de Kikwit et Maître Gervais à Calémie, on se rend compte que de leurs interventions se dégage au fait une idée, c'est-à-dire tous sont d'avis qu'il y a une volonté politique pour pouvoir bouger les lignes, faire bouger les lignes, mais ils partagent au fait l'avis selon lesquels il faut réellement restructurer des régies financières. Mais comment y arriver?
Non, je ne pense pas que la restructuration d'une régie financière pose particulièrement des problèmes graves pour savoir comment on peut y arriver, comme si c'était une énigme. Non, je pense que le plus important, c'est que par rapport aux objectifs que s'assigne le gouvernement, par rapport aux assignations même aussi que le gouvernement impute à l'une ou l'autre des régies financières, il y a un train de mesures d'accompagnement qui sont généralement envisagées. Et le profil des individus qui ont la responsabilité de présider au destin de toute une communauté, de l'intérêt commun, le profil compte. Il faudrait voir aussi, par rapport au statut, par rapport aux lois organiques et divers statuts qui organisent les régies financières, qu'est-ce qu'il faut dans leur objectif fondamentalement modifier. Est-ce que, au vu des résultats passés, on peut imputer la faiblesse du fonctionnement d'une régie à une responsabilité humaine? Est-ce qu'on peut l'imputer à une responsabilité de texte? Est-ce qu'on peut, je veux parler du cadre légal, est-ce que l'on peut imputer à une responsabilité environnementale ou à une responsabilité politique? Vous savez, aujourd'hui, dans l'analyse du fonctionnement d'une entreprise, il faut tenir compte de tous les paramètres. Il y a bien sûr les paramètres politiques. On a parlé de la volonté politique. Il y a des paramètres juridiques, légaux, le cadre réglementaire dans lequel les entreprises évoluent. Est-ce qu'ils sont adaptés aux exigences du moment? Il y a la contrainte humaine, c'est-à-dire le capital humain, le bagage intellectuel, le background, l'expérience, la moralité. Est-ce que ces gens ont un passé noble? Est-ce que ces gens ont un background qui justifie qu'ils occupent des responsabilités, parce qu'on est en train de parler de la lutte contre la fraude. Il y a des contraintes environnementales. Nous ne voyons pas que la volonté politique, il y a aussi la volonté citoyenne. Quelle est notre contribution? Quel est notre comportement en tant que citoyen dans ce pays? Est-ce que le Congolais aujourd'hui est-il prêt lui-même à payer l'impôt comme ça se fait sous d'autres cieux?
La culture fiscale.
Mmh. C'est la citoyenneté de l'impôt. Et quelle est notre attitude, nous, les citoyens congolais, vis-à-vis de l'impôt? Quelle est notre attitude d'abord vis-à-vis de l'État?
Mais j'attendais un citoyen, juste pour ouvrir une parenthèse rapidement, et puis je vais la fermer, dans un taxi, dire que nous payons par exemple les vignettes, mais aujourd'hui il faut voir l'état dans lequel se trouvent nos routes. Hein, en tout cas, c'est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, il n'y a pas. Dans un juste passé récent, on a récolté, on a dérangé les contribuables pour les pays de vignettes. Bah alors si on peut encore aller plus loin, il y a certaines entreprises qui payent au fait ce qui est dû à l'État, mais au finish, on se rend compte que on laisse croire qu'il n'y a toujours pas d'argent.
C'est pour ça que des mesures de réforme sont toujours précédées des audits de gestion et des audits divers pour éclairer le décideur sur les causes profondes de l'immobilisme, de l'inefficacité des mesures. On ne peut pas aujourd'hui tomber dans l'erreur de l'arbitraire. On ne peut pas simplement faire un remplacement des êtres humains comme si c'était un règlement des comptes. On ne peut pas simplement du jour au lendemain déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je crois qu'il y a un travail de fond qui nécessite d'être fait pour que nous puissions comprendre. Regardez, la situation ne date pas d'hier, ne date pas d'aujourd'hui, de ce matin. À entendre tous les sceptiques
Faudrait-il laisser cette situation perdurer et pourrir? Voilà, donc c'est là la question en fait.
Je crois que
c'est là où on appelle à la responsabilité des uns et des autres.
Je crois que c'est l'engagement qu'a pris le Premier ministre devant la représentation nationale lorsqu'il a dit « nous allons mettre fin à la fraude ». Nous allons nous attaquer à la fraude, à l'évasion fiscale, à la corruption. Ça signifie implicitement que nous allons...
Mais les mécanismes en place à accuser pratiquement défaillance est énorme pour les uns et les autres. Donc pourquoi ne pas changer, apporter un nouveau souffle, une valeur ajoutée par exemple?
C'est exactement ce que je suis en train de dire. Les mécanismes en place ont fait preuve de leur inefficacité. Mais il faut maintenant savoir établir la responsabilité de cette inefficacité. Je vous ai dit tout à l'heure que les causes sont multiformes, les risques sont multiformes. Vous savez, nous sommes à une époque de la mondialisation, c'est-à-dire une époque de la digitalisation de l'information, une époque de la dérégulation des marchés, une époque de la globalisation financière. Et dans une telle époque qui est la nôtre aujourd'hui, la mondialisation nous amène des nouveaux types de risques, de nouveaux types de menaces. Et aussi de nouveaux types d'opportunités que nous devons savoir capitaliser. Donc, je le disais tout à l'heure, qu'il y a différents types d'entreprises. Quand on parle d'une régie financière, considérez d'abord comme une entreprise. Et quand vous avez une entreprise, apprenez qu'il y a d'abord le risque d'entreprendre, c'est-à-dire de rester exister comme entreprise. Il y a le risque de marché dans lequel vous allez évoluer. Il y a le risque institutionnel. Il y a beaucoup de risques qui font qu'une entreprise peut, malgré toute la bonne foi du monde, s'avérer inefficace lorsqu'elle n'a pas pris en compte beaucoup de facteurs, beaucoup de pesanteurs qui peuvent gêner
des facteurs exogènes ou encore des facteurs exogènes.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, des paradigmes économiques ont changé. On parle aujourd'hui de l'intelligence économique pour faire comprendre aux gens que le management traditionnel, archaïque, en lui seul, en lui-même, ne suffit plus. Parce qu'on a vu de grandes entreprises multinationales, richissimes, investir dans des pays africains comme Madagascar, dans le cas de Daewoo Logistics, qui a investi des millions de dollars au Madagascar avec le meilleur de management possible et qui a échoué simplement parce qu'il n'a pas pris en compte certaines pesanteurs culturelles. Donc, ça, ce sont des facteurs environnementaux, culturels, sociologiques qui peuvent faire en sorte qu'une administration s'avère inefficace. Vous avez beau être une administration fiscale, la DGI, mais si les individus ne paient pas l'impôt, ils n'ont pas la...
Vous n'aurez pas les moyens de votre politique.
Ok, prenons encore un autre exemple pour terminer. Imaginez que la DGI a en face d'elle quelqu'un a fait allusion à l'étendue énorme du secteur informel. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un agent de fisc va le matin, il enrôle un assujetti, un imposable, ou disons plutôt un contribuable. Il enrôle le matin en tant que boulangerie. Il a trouvé qu'il y a une boulangerie qui s'est créée dans le quartier, il faut l'enrôler, elle va payer les impôts. À 10 heures, la boulangerie n'existe plus. Elle est devenue un atelier de couture. Mais sur la même adresse. Quand vous revenez, c'est plus la boulangerie, c'est un atelier de couture. À midi, ce n'est plus un atelier de couture, ça devient maintenant, je ne sais pas moi, une église où chantent tous les chrétiens, tous les fidèles. Ils arrivent là-bas. À 14 heures, la même adresse a changé d'activité 36 fois avant la fin de l'année, avant l'échéance fiscale. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à ce moment-là, l'administration fiscale? Ce sont des pesanteurs sociologiques et sociales qui sont les nôtres et qu'il faut savoir interpréter et qu'il faut savoir corriger.
Alors là,
les mesures de restructuration et de réforme sont amples et qu'il faut les prendre de façon profonde. Parce que n'oubliez pas, surtout, JR, qu'il n'y a pas longtemps que ces mêmes régies ont fait l'objet des restructurations. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Donc,
il faut
une réflexion profonde.
Merci beaucoup, Michel Sommoy. On reviendra à vous pour la troisième partie de cette émission. Entre-temps, nous accueillons les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat pour compléter aussi apporter quelques réflexions sur ce que ont dit déjà leurs prédécesseurs. Valérie est à Kindu, Alain à Kinshasa, Docteur Vasco à Kolwezi. Valérie, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue. Valérie, vous êtes avec nous? Alors, Alain Bolodjoa est à Kinshasa, bonjour Alain.
Bonjour, Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour à votre invité.
Alors, tout à l'heure, Michel Sommouet, en faisant une analyse très approfondie sur la question proposée par certains auditeurs sur la restructuration des régies financières, ne fût-ce que pour commenter le préalable fixé par le Premier ministre pour arriver au résultat, notre invité évoque la responsabilité, donc il y a quelques paramètres à tenir compte, des responsabilités à tenir compte, notamment la responsabilité humaine, la responsabilité des textes, la responsabilité environnementale et la responsabilité politique. Alors, comment commentez-vous cela?
Bon, moi j'estime plutôt qu'on doit commencer par la responsabilité politique, parce que tous les autres paramètres pris en compte par dans l'analyse sont conditionnés par un environnement politique et une volonté politique manifeste. La plupart des gens qui sont en tête ou à la tête de ces régies financières ont été choisis sur base d'un critère. Et ces critères vont plus dans le sens politique et technique. Ce qui fait que le rendement de leurs actions apparaît de plus en plus négligeable, minimaliste. Le problème aujourd'hui en termes de la réalisation ou la capacité mobilisatrice des États, nous avons eu ce genre de débat. Mais malheureusement, la situation devient de plus en plus récurrente et apparemment, les solutions apportées n'arrivent pas à changer la manière de faire. Moi, je prends un cas au niveau de frontières. Il y a des fraudes fiscales, tout le monde le sait, mais personne ne prend le courage de résoudre le problème tout simplement parce que les gens, les premiers bénéficiaires sont des politiciens. Il y a les importateurs, par exemple, de blé ou de farine de maïs. Ils arrivent au niveau de frontières, ils déchargent la marchandise. Et les gens qui font le transport en vélo, ils prennent sac par sac et ils passent les frontières et tout le monde voit ça. Donc, quelque part, il y a cette mauvaise foi à chercher à trouver une solution structurelle et même structurante pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Oui. Aujourd'hui, nous avons un budget qui apparaît
réaliste et ambitieux,
que moi je considère réaliste et loin d'être ambitieux. Le budget a besoin d'avoir comme matelas, comme base, la volonté politique. La plupart des gens qui bénéficient du dysfonctionnement systémique de l'État sont des gens qui sont au pouvoir, dans la plupart des cas. Mais dès lors que ces gens-là vont sentir que la volonté, les intérêts de l'État va à l'encontre de leur volonté, c'est à eux maintenant de faire le choix entre de privilégier l'intérêt de la collectivité ou de privilégier leurs intérêts propres. S'ils arrivent déjà à intérioriser cette vision-là, eh bien, ça sera le déclic pour le développement du pays. Dès lors qu'ils vont continuer à avoir cette vision auto-centrée de satisfaire leurs intérêts au détriment des intérêts de la nation, eh bien, ça sera difficile. Parce que la plupart des gens qui détiennent le finance entre leurs mains sont dans le pouvoir. Aujourd'hui qu'on a choisi quelqu'un qui vient de l'opposition, c'est vrai que M. Tshibala a le poste de Premier ministre, mais le pouvoir est encore détenu par la majorité. Si la majorité présidentielle voudrait l'accompagner dans le sens de briser cette chaîne de déséquilibre qui met en mal la fibre sociale, c'est à la majorité présidentielle de faire des choix rationnels, c'est-à-dire le choix de privilégier l'intérêt national. Mais dès lors qu'ils vont continuer dans la même lancée, dans la même philosophie, où chaque individu doit chercher à maximiser ses intérêts, naturellement, toutes les bonnes intentions que pourrait avoir le gouvernement ne vont aboutir à rien. Il y a nécessité de revoir les animateurs des régies financières. Parce que chaque fois qu'il y a un budget, avant qu'il y ait, comme on dépose le budget, on doit aussi faire l'évaluation de la gouvernance au niveau de ces régies financières. On doit faire l'évaluation des entreprises qui apportent le financement nécessaire pour l'application du budget. Dès lors qu'il y a un dysfonctionnement, dès lors qu'il y a complaisance en termes de choix, et que la technicité ne permet pas que nous ayons des gens capables de mobiliser suffisamment de moyens, dès lors qu'il y a un problème au niveau de la chaîne des recettes, au niveau de la chaîne des dépenses, naturellement, nous risquons d'avoir une situation pire que celle que nous avons. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons des dépenses qui sont que je dirais ne sont pas rentables sur le plan économique. Je prends le cas des élections. On doit ponctionner l'argent ou disposer l'argent pour financer les élections. On doit payer les agents qui vont travailler dans le système pour que eux aussi soient motivés. On doit projeter les investissements. Il faudra aussi projeter le budget de 2018. Dès lors que il n'y aura pas des investissements nécessaires et substantiels pour permettre à ce que nous produisons suffisamment, pour permettre à ce que l'année 2018 soit meilleure. Et moi, je me dis, ce sont des choix contradictoires qui sont opérés et qui ne vont pas permettre à ce que nous atteignions l'essentiel pour l'État, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de manière structurelle.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoa, d'avoir appelé. Mais nous retenons que pour vous, ce budget est réaliste, loin d'être ambitieux. Mais néanmoins, vous pensez que la grande question de la solution à ces problèmes, ou encore les préalables fixés par le gouvernement, pourrait trouver solution si jamais la majorité faisait un choix préférentiel. Voilà, donc je crois que notre invité pourrait revenir là-dessus. Docteur Vasco, vous êtes à Colosie. Bonjour et bienvenue. Docteur Vasco, vous êtes avec nous? Voilà, la ligne a des petits soucis. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Restructuration des régies financières, création d'une police et aussi la collaboration avec les conseillers en charge de lutte contre la corruption. Qu'en pensez-vous?
Oui, tout cela est possible, Gérard. C'est pas une nouveauté. Mais pourquoi, généralement, ça ne réussit pas? On a déjà créé beaucoup de structures comme ça, mais ça n'a jamais réussi. Il est un secret pour personne que le pays ne mérite pas ce genre de budget que nous avons toujours connu dans notre pays, des milliards, 2 milliards, 4 milliards, et on arrose des champagnes. Donc le Premier ministre a osé et nous devons le féliciter. Je pense que notre pays mérite un budget qui devrait aller au-delà de 50 milliards de dollars. Le Premier ministre vient de l'IDPS et après 36 ans de lutte pour la démocratie et l'état des droits, il connaît bien les projets de société de ces partis l'IDPS. Nous savons tous que les problèmes de ces pays, ce n'est pas un problème d'argent, un problème de moyens, mais c'est un problème d'hommes et d'antivaleurs. Et Bruno Tshibala est capable de les résoudre, mais qui ne sait pas que toute la gestion de la République aujourd'hui entre les mains de la majorité présidentielle. Monsieur Tshibala a-t-il réellement des biceps pour combattre les antivaleurs dans ces cas-là? Je ne pense pas que les caciques et les dinosaures sont prêts à lui laisser les mains libres.
Et qu'est-ce que vous proposez, vous, personnellement, Félicien?
Oui, ce que nous proposons, que ceux qui sont de l'autre côté prennent conscience de l'état dans lequel ils ont mis le pays et qu'aujourd'hui qu'ils ont un premier ministre, si vraiment ils sont sûrs que ce gouvernement est un gouvernement du consensus des accords de la Saint-Sylvestre, qu'il les laisse les mains libres et qu'il puisse arriver à mettre en pratique tout ce qu'il a comme programme, projet, et que nous puissions sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve. Mais s'il continue à lui mettre les bâtons dans les roues, comme nous l'avons vu, le premier ministre Badibang était déjà nommé, quand ces groupes-là, avec Matata Pono, ont organisé une mise en place dans les régies financières et dans les entreprises publiques, ils ne l'ont pas fait pour rien. Donc, c'est justement parce qu'ils ont des visées de nuire au bon fonctionnement de l'économie, ils ont des intérêts personnels. Jusqu'à aujourd'hui, la primature est gérée par les cabinets de Matata Pono. Et le Premier ministre, là, il est déjà fonctionnel, il n'a pas son cabinet. Vous pensez que tout cela concourt à la réussite de Bruno Tshibala? Donc moi, je pense que le peuple devrait ouvrir les yeux pour que demain, ça ne soit pas non certain opposant qui était là et qui n'a rien fait et tout ça. On est en train d'affaiblir l'opposition alors que les masses se trouvent de l'autre côté.
Merci beaucoup, Félicien. Docteur Vasco, vous êtes à Colosie, bonjour.
Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Non, moi, sur ce point, je trouve parler du réaliste et du budget qu'a proposé M. Tshibala, ça serait une faute et une erreur grave. Parce que, vous savez, le budget qui a été proposé par le gouvernement sortant de Mata Tampoy n'était pas du tout un budget quand même assez raisonnable. Mais cette fois-ci, il y a deux possibilités. La première possibilité, changer les agents de la régie financière n'est pas un problème pour réaliser les budgets. Mais le problème réside dans la conscience de tout Congolais habilité à récolter cet argent de l'État. Parce qu'il y a un gouvernement qui peut entrer et remanier tous les personnels en son propre faveur. Ça veut dire qu'il prend celui qui était à la DGDA, il nomme son frère, il prend celui qui était peut-être dans n'importe quelle entreprise habilité à récolter l'argent de l'État, il nomme son frère, son cousin, son père, dans
le but de récolter
l'argent et contribuer dans les propres familles. Ce qui peut détruire très, très, très grave même
l'administration fiscale.
Mais il y a d'autres pas où on peut soit mettre des gens de nouveau qui peuvent peut-être récolter l'argent de l'État et contribuer à la construction de l'État.
Voilà, donc, merci beaucoup. Alors, docteur Vasco, il y a un auditeur qui nous a écrit, d'ailleurs, je viens de découvrir son message, qui propose qu'à ce moment, que Bruno Tshibala puisse faire signer aux responsables des régies financières un contrat de performance. Voilà, donc ça pourrait l'aider à mobiliser au cas où, donc ce serait possible pour lui au moins de sanctionner si jamais l'un ou l'autre n'arrivait pas à atteindre ou à réaliser ses contrats de performance. Merci beaucoup. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les millions d'auditeurs. Bonjour à monsieur Michel Somoué.
Est-ce que vous pensez,
Maître Sonville? Oui, Maître Sonville. Monsieur JR, moi je dirais ceci. Le budget, le projet du budget est un projet ambitieux, un projet irréalisable. Et je dis irréaliste même. Où est-ce que le Premier ministre va trouver ces ressources-là? Et loin de là, le Premier ministre n'est pas issu de l'opposition. Il est issu des dissidents de l'opposition. Le Rassemblement ne reconnaît pas M. Tshibala. Ça, c'est un fait. Des deux, un service d'antifraude. Le service d'antifraude existe dans toutes les provinces. Ici, à Lubumbashi, nous avons le service d'antifraude. Qu'est-ce que le service d'antifraude, là?
Qui ne travaille qu'à la frontière. Ministre,
comme il est déjà investi, qu'il commence d'abord à récupérer l'argent des passeports. Parce que c'est connu par tout le monde qu'il y a des tournements de l'argent des passeports. Il n'y a que 65 dollars qui entrent dans les caisses de l'État. Et par rapport maintenant aux régies financières, monsieur le Premier ministre n'a aucun responsable des régies financières qui l'a placé lui-même. Les responsables des régies financières ont été laissés par Mata Tampoy. Est-ce que monsieur le Premier ministre aura la même mise sur ses responsables des régies financières? Moi, je ne crois pas. Et aujourd'hui, il dit qu'il va mobiliser les recettes par rapport aux impôts, aux taxes, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour assister encore le peu d'opérateurs économiques qui sont encore restés? Puisque toutes les entreprises mineures ont presque fermé. Il existe maintenant que de petites entreprises locales. Est-ce que pour aussi des asphyxier, pour contraindre à ces gens-là de payer des surtaxés et tout ça? Moi, je ne crois pas. Moi, je dis ceci, monsieur JR, on ne peut pas se leurrer. Il n'y aura pas d'élection à cette année. Il suffit seulement de recourir à la population, que nous puissions nous cotiser à 100 francs, 200 francs, 1000
voilà.
francs. Pour
merci.
Que nous arrivons à atteindre le
merci.
Montant.
Merci beaucoup.
Il n'y aura pas de raison à cette allure.
Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. On termine avec vous, Timothée. Vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Niel.
Quelle est votre contribution?
Oui, merci bien. Moi, je m'étonne d'abord parce que nous savons que le processus de la lutte contre la corruption, c'est un long processus qu'il faut encore beaucoup de temps. Alors, je ne me demande pas quelle magie, monsieur. Le Premier ministre Bruno Tshibala pourrait y arriver du fait que nous savons qu'il a un temps record qu'il doit passer à la tête de ce gouvernement. Nous savons que faire des déclarations, c'est mieux, mais ce que nous voulons, c'est l'immatérialisme, qu'il passe directement à l'acte, parce que ses prédécesseurs annonçaient comme ça, mais nous savons le résultat, ils ont échoué. Moi, je crois que le grand obstacle devant lequel ce budget sera habité, c'est d'abord la dépréciation de la monnaie congolaise, donc les francs congolais, par rapport au dollar américain. Nous ne savons pas comment est-ce qu'il peut faire. Le meilleur à faire serait d'abord de stabiliser le marché d'échange, c'est-à-dire qu'il faut que les francs congolais puissent d'abord avoir ça, l'air sur le marché d'échange. À partir de là, il peut voir comment mobiliser ces francs. Parce que du jour au jour, nous nous rendons compte qu'il y a toujours cette dépréciation des sangs congolais.
Voilà, merci
alors,
beaucoup, Timothée.
Je viendrai en
merci.
Cours. Comment est-ce qu'il pourra faire pour les sociétés
des... Merci. Merci beaucoup, Timothée, d'avoir appelé des Kananga 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nathalie Kalongi, vous nous avez écrit, ça c'est se moquer de nous pauvres Congolais, il ne sera pas différent de Badibanga et ce n'est pas en l'espace de 7 mois qu'il va faire tout ça, que ça ne soit pas aussi un motif de ne pas organiser les élections. Sylvain Luma, bonjour, depuis Kinshasa, je n'ai pas la confiance aux propos des hommes politiques, on en a toujours fait, mais pas de résultats positifs. Quels sont les mécanismes positifs qu'on peut attendre pour arriver à cela? L'évasion et la fraude fiscale et douanière, il n'en précise pas, alors peut-on lui croire? Dans ce pays, il existe des mécanismes déjà mis en place afin de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent. Combien de fois cela ont-ils déjà produit des résultats? Dembe JR, cela serait possible si et seulement si le Premier ministre aurait des contrôles totaux des services de finances, de la DGI, des GERAD, des GDA et aussi les contrôles de certains ministères clés tels que celui des finances. Mukini Apiembi Timothée de Kananga, la lutte contre la corruption est un processus, il va falloir laisser du temps. Vasco Kasongo, la pensée de M. Tshibala est bonne, mais les problèmes résident dans les esprits de ceux qui sont à la porte d'entrée de l'argent. Pierre Mambo Pierre, depuis la province du Sud Kivu, félicitations d'abord à Bruno pour ses gestes, mais aussi je ne pense pas que dans 6 mois il peut avoir ce montant. Voilà, réaction. Michel Somoui.
C'est très difficile de répondre à toutes les questions qui sont soulevées parce que certaines relèvent des préjugés, certaines procèdent du pessimisme, peut-être justifié par de longues années d'incertitude. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il doit y avoir aussi une solution. Le fait n'est pas parce que tel ou tel ont échoué qu'on ne peut plus jamais réussir. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait conseiller aux Congolais de disposer un jour d'une attitude positive. Parce que le Congo pessimisme, alors finalement, ça sert à quoi? C'est comme si on disait aux gens, abandonnez tout, laissez tomber, allons en enfer et on s'arrête là. Je pense que s'il y a encore des hommes qui peuvent se lever un jour pour dire, terme de 36 ans de combat, comme c'est le cas avec Bruno Tshibala, pour dire, moi, je veux apporter le changement. Moi, je m'engage dans l'action. Il faut les encourager. Il faut pas dire, non, parce que il y a eu Matata qui a échoué, il y a eu Muzito, il y a eu Pati Patata, et donc plus personne ne réussira. Ça, c'est impossible. Parce que, il n'y a pas ici, dans ce pays, quelqu'un qui dispose d'une unité de mesure des intelligences humaines.
Parce que les gens ne croient pas au miracle, là où les grands, des technocrates, connus dans le monde de l'économie, notamment Muzito, Matata, que Bruno puisse faire vraiment du miracle avec ses budgets, des revues, des simples au double. Mais alors, comment mobiliser
le budget,
les fonds?
Le budget JR ne relève pas du domaine des miracles, mais du domaine de la science. Et qui dit science, dit qu'il y a un ensemble de mesures de politique qui sont concevables. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Et nous sommes 83 millions de citoyens congolais. Et vous ne pouvez pas me dire que tous les 83 millions de citoyens congolais sont stupides pour ne pas être capables de surmonter des obstacles auxquels nous sommes tous habitués. Qu'est-ce qu'on dit ici de nouveau que Bruno Tshibala ne connaît pas? J'entends les gens dire... Oh, oui, il n'a pas les instruments, il n'a pas le contrôle du pouvoir parce que il y a la MP. J'ai dit, oui, c'est un gouvernement d'union nationale issu d'un dialogue politique. On ne peut pas le renier. Le dialogue politique a été conçu pour chercher un certain consensus. Et je pense que aussi longtemps que ce gouvernement est constitué rien que des citoyens congolais, il est possible d'imposer aux uns et aux autres le devoir de citoyenneté. Il est possible de le faire. Parce que je ne vois pas qui va cracher sur son identité infiniment et éternellement. Pour ce faire, on n'a pas forcément besoin de la chicotte. Quelqu'un a parlé de la conscientisation. Mais c'est aussi un instrument qui peut être utilisé pour amender le comportement des uns et des autres. Moi, je ne vois pas où se trouve le miracle là. Je ne vois pas où se trouve l'impossibilité de correction des erreurs du passé. Je reste optimiste, comme je l'ai toujours été, et je crois encore plus que ce budget de 7 milliards 800 millions de dollars est encore
réaliste, modeste,
améliorable. Puis, on peut encore faire davantage et peut-être aller au double, comme il avait dit.
Merci beaucoup, Michel Somoé. Nous rappelons que vous êtes analyste économique, d'avoir été notre invité. Nous terminons par ici en disant merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation et à la production de ces programmes citoyens. Paul Badianiam, Nico Kalambay et Pierrot et la Magie. Ces programmes vous ont été supervisés par Martin Sebujangui et coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro. Thank you.